Bon dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque dimanche matin depuis presque maintenant 20 ans. Ça sera le mois prochain qu'on fêtera les 20 ans de Tribune Sport. Alors la semaine dernière, on a vu une émission très riche et très variée, hein, surtout axée sur le domaine caritatif. Donc 2 heures de Tribune Sport entre 9h et 11h. Eh bien là, on va retrouver Tribune Foot donc ce matin entre 10h et 11h. Donc on aura donc qu'une heure de Tribune Sport. Hein, donc 10h, 11h, Tribune Foot où effectivement, on aura par téléphone donc Pierre Cangioni, l'ancien journaliste sportif de TF1, créateur de Téléfoot. On fera un petit peu aussi le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'ex-professionnel Hippolyte Dangbeto. Et puis on reviendra naturellement au cours de cette dans Tribune Sport, de cette première heure de matinée sportive sur la victoire du 15 de France, hein, 26-21. On a vu un match superbe hier, hein, c'est notre ami Jean-Michel Bourgard qui nous fera un petit peu le bilan de ce match. Et puis on va parler escrime, parce que qui dit février dit Coupe du monde d'escrime de sabre. On est ravis d'accueillir celui qui était encore la semaine dernière le président donc de cette section escrime de Dourdan, monsieur Duval d'Estaing. Monsieur Duval d'Estaing, bonjour.
Bonjour.
Alors je dis encore président la semaine dernière parce que il y a une tradition chez vous, c'est que vous tournez, hein, tous les 2 ans, 3 ans, et donc vous allez laisser la place dans quelques jours à un nouveau président nouvellement élu.
Alors effectivement, si vous voulez, on est une association, un petit groupe très solidaire. Mmh. Et comme tout le milieu associatif, nous avons besoin de rassembler un maximum de bonne volonté. Mmh. Et donc, je passerai la main, effectivement, à l'issue de la Coupe du Monde, à l'un de mes collègues, Marc Troudet, mmh, hein, qui sera président du club. Et nous tournons alors 2 ans, 3 ans. Certains, ouais, de mes prédécesseurs ont fait un peu plus longtemps. Mmh. C'est une forte charge, hein, vous savez, d'animer l'escrime localement et en particulier de tenir une Coupe du Monde. Mais c'est aussi un très grand plaisir parce que, comme vous le savez, c'est tous les ans un très grand succès.
Mmh. Effectivement, c'est la vitrine, hein, c'est la plus grosse manifestation à l'année pour vous, hein, l'escrime sur Dourdan, cette Coupe du Monde junior de sabre, où ensuite on va retrouver tous ceux qui vont briller aux Jeux Olympiques, alors peut-être pas en 2008, mais en 2012.
Eh bien, en 2008, nous verrons, parce, ouais, que vous savez qu'en escrime, parfois, certains talents se révèlent extrêmement vite. Hein. Mm-hmm. Nous avons reçu les années passées Rebecca Ward, par exemple, qui, ouais, a été championne olympique à Athènes, mm-hmm, et qui est encore junior, si vous voulez. Mm-hmm. Hein. Donc, oui, nous allons effectivement recevoir les meilleurs jeunes sabreurs mondiaux. Et notre tournoi, nous en sommes très fiers, est pratiquement le deuxième tournoi mondial, mmh, de la Coupe du Monde Junior. C'est-à-dire, mmh, qu'en fait, le premier est Budapest, en Hongrie, et nous sommes très souvent, avec notre plateau, le deuxième tournoi mondial.
Alors, on le cite toujours, hein, il y a, mmh, eu Touya qui est venu il y a quelques années sur Rambouillet, sur Dourdan, hein, et on l'avait interviewé d'ailleurs.
Effectivement, hein, nous avons toujours les meilleurs Français. Ouais. Pour eux, c'est, mm-hmm, c'est une étape intéressante de préparation de la suite de la saison avant les championnats du monde junior. Mm-hmm. Et puis, nous avons également, si vous voulez, régulièrement le champion du monde junior et des jeunes qui sont placés, comme vous l'avez dit, dans les 2 ou 3 années suivantes dans les, mm-hmm, championnats du monde ou dans les Jeux olympiques.
Très bien. Allez, la musique, la pub, et ensuite, on va rentrer et pénétrer dans le cœur de la vie de cette section escrime de Rambouillet. Escrime de Dourdan, hein. Course, ça, c'est pas Rambouillet, hein. Même s'il y a beaucoup de rambolitains et de rambolitaines sur Dourdan, hein. C'est bien la section escrime de Dourdan, hein. Sur Rambouillet, il n'y a pas encore de club escrime, mais ça viendra peut-être. Mais on l'a dit, monsieur Duval d'Estaing, beaucoup de rambolitains, beaucoup de rambolitaines, hein, parce que vous êtes le club phare de la région en matière de sabre.
Alors, si vous voulez, heureusement, il y a plusieurs clubs de sabre au sein de la région. Sinon,
ouais, enfin, c'est le plus proche ici, voilà, quand même. Hein.
Ici, c'est le plus proche. Effectivement, nous drainons beaucoup parce que le sabre, c'est notre sport exclusif. Hein. Mm-hmm. Vous savez qu'en escrime, il y a 3 armes, l'épée, mm-hmm, le fleuret et le sabre. Et à Dourdan, nous sommes concentrés sur le sabre. Donc, mm-hmm, nous offrons effectivement un vrai plateau au niveau du sabre. Et nous sommes reconnus et nous sommes soutenus par l'ensemble des collectivités locales, justement, mm-hmm, pour entretenir le sabre.
Oui. Alors, on choisit son club en fonction de son arme.
Alors, je ne sais pas. Je crois que quand on aborde l'escrime, c'est un état d'esprit indépendant, ouais, de l'arme, ouais, en fait. Hein. Ouais. Donc, souvent, je pense que les gens choisissent l'arme en fonction de leur club et ensuite, progressivement, en avançant dans l'escrime, vont s'orienter vers une arme ou une autre. Mm-hmm. Voilà, si vous voulez, Ce qui est intéressant dans l'escrime, ce sont ses racines historiques. Mmh. Hein, alors, pour faire très simple pour nos auditeurs.
Les capes et d'épée.
Voilà, les capes et d'épée. Hein, l'épée, c'est l'adaptation la plus simple, on va dire, de l'ancienne arme de duel, de la rapière ou de l'épée. Mmh. Mmh. Hein, donc, la règle est simple. Il faut toucher le premier n'importe où. Mmh. Le fleuret, c'est une arme d'étude, et c'était l'arme qui était utilisée au départ pour s'entraîner avant le duel. Hein. On voulait s'entraîner sans trop se blesser, et donc on avait restreint la zone de touche, le torse, et puis on travaillait avec une arme de pointe comme l'épée. Et puis on a mis en place une convention qui rend réaliste le duel, si vous voulez. Et le sabre, c'est un peu la suite. C'est-à-dire, en fait, c'est l'arme de guerre qui pointe et qui tranche, et sur lequel on a effectivement appliqué une convention. La convention, c'est quelque chose de très simple. Hein. On considère que si vous êtes attaqué par un adversaire qui a une lame tranchante, votre premier réflexe sera de vous défendre avant même de contre-attaquer, parce que ça ne vous sert à rien d'avoir piqué son poignet une demi-seconde avant lui si vous tranche la tête de son grand geste.
Hein. D'accord.
Donc finalement, le sabre, c'est vraiment une arme qui cherche à représenter le duel, et un duel réaliste.
Mmh. D'accord. Alors, les clubs, il y en a beaucoup. Il y a le Chesnay, hein, on les a rencontrés donc dans la soirée des éclats olympiques il y a 15 jours. Hein. Il y a Maurepas, et puis dans l'Essonne, il y a Gif-sur-Yvette, et puis Étampes aussi.
Étampes, oui. Non, c'est...
Peut-être ça, plus maintenant, c'est fini.
C'est Breuillet maintenant.
C'est Breuillet, d'accord. Oui. Ça a été... Ouais. Avec là aussi, quel type d'armes?
Alors, Breuillet est plutôt orienté sur le fleuret.
Mmh. Voilà.
C'est pour ça d'ailleurs que ça nous permet dans le Sud-Essonne de proposer finalement un éventail assez large de pratiques d'escrime.
Mmh. On parlait des Étampes, vous aviez repris à un moment aussi une des épreuves qui était organisée sur Étampes. Hein.
Alors effectivement, la Coupe du Monde de Sabre s'est jumelée à une époque avec une Coupe du Monde de fleuret.
Effectivement.
Je l'ai plus en tête l'année exacte, je crois que c'est 99. Et ce qui avait permis d'ailleurs d'augmenter encore le rayonnement de la compétition. Ah ouais. Puisqu'il y avait pratiquement 300 compétiteurs localement. Hein, vous savez qu'accueillir 200-300 compétiteurs, c'est accueillir 400 ou 500 personnes sur nos sites, ce qui est une organisation considérable.
Alors, avant de rentrer donc dans la vie du club, hein, justement, on en parlait hors antenne la semaine prochaine. Donc, c'est cette Coupe du Monde d'escrime de sabre sur Dourdan. Hein, c'est l'épreuve phare de l'année. C'est une reconnaissance aussi pour votre club.
Alors, c'est une reconnaissance pour notre club. C'est une reconnaissance aussi qui ne date pas d'hier, de Georges Palfi, notre maître d'armes.
26 ans hein,
puisque,
cette année, hein, c'est ça.
Eh bien, Georges aura organisé 35 coupes de la ville de Dourdan. Mmh. Et c'est la 26e année que c'est une Coupe du Monde.
Mmh.
L'année dernière, nous fêtions le quart de siècle de la Coupe du Monde. Nous avons reçu d'anciens champions olympiques qui avaient gagné Dourdan, ukrainiens, hongrois, enfin c'est toutes les nationalités pratiquement sont représentées. Nous avions été soutenus par l'équipe de France handisport également, qui était venue faire très sympathiquement des démonstrations et qui avait tiré contre les jeunes juniors, qui ont d'ailleurs été un peu surpris parce que les handisports de haut niveau en escrime ont un bras extrêmement rapide.
Bien sûr. Et donc cette année, il y aura encore une vingtaine de nations. Il y aura même les Japonais. C'est une grande première, ça, sur Dourdan.
Alors pour nous, les Japonais, c'est une grande première. Ils viennent avec 3 jours d'avance pour reprendre un peu de décalage horaire, pour pouvoir se réentraîner. Donc c'est un très grand plaisir de recevoir des nations un peu éloignées comme ça. C'est l'occasion d'une rencontre. Nous allons vivre avec eux pendant 3 jours, les accueillir, les aider à s'entraîner, et puis les encourager. Hein, parce que bah, finalement, ils vont se retrouver un petit peu tout seuls à Dourdan. Et je suis certain qu'une fois qu'ils auront goûté à notre Coupe du Monde, à notre accueil toujours très chaleureux, ils reviendront tous les ans.
Quelles sont les autres grosses nations? Il y aura les Américains qui reviennent cette année,
Les Américains, les Russes, les Polonais. Très grosse délégation polonaise encore cette année. Nous avons aussi des pays du Maghreb. Nous recevons tous les ans les Tunisiens et il se crée une complicité. Les Tunisiens sont à un très bon niveau au niveau africain et au niveau méditerranéen. Et de ce fait, eh bien, nous avons la chance de les avoir tous les ans. C'est d'ailleurs une petite anecdote d'organisation. C'est toujours une petite angoisse pour les organisateurs que nous sommes de s'assurer que nous avons les bons drapeaux. Alors vous savez que nous ne connaissons les pays qui viennent que 5 jours avant la compétition. Et les bons hymnes, parce qu'il faut être capable d'avoir effectivement la bonne musique le jour où le jour où quelqu'un arrive sur le podium.
Et puis il faut aller accueillir donc les différentes délégations au pied de l'avion, il faut les emmener en bus. Vous allez donc les loger cette année à un endroit commun qui est le VVF. Ça c'est bien parce que ça fait une sorte de petit village olympique sur Dourdan. Là, hein.
Alors exactement, c'est tout à fait l'esprit de la Coupe du Monde à Dourdan. C'est une Coupe du Monde qui est soutenue, on va dire, par toutes les bonnes volontés locales. Nous sommes très fortement soutenus par les pouvoirs publics, donc la région Île-de-France qui nous soutient, le Conseil général de l'Essonne, et puis la municipalité de Dourdan, et cette année d'ailleurs la communauté de communes de l'Urpois, hein, dans laquelle se sont regroupées toutes les communes, qui nous aident énormément. Et puis, nous avons aussi des partenaires locaux avec qui nous travaillons très bien. Donc, le VVF qui maintenant s'appelle Bellambra, qui nous offre effectivement un cadre idyllique, un petit village dans lequel nous rassemblons 20, 25 nations différentes, des jeunes de 16 ans. Vous imaginez que les soirées ne sont pas toujours tristes, bien que les entraîneurs veuillent les coucher de bonne heure pour le lendemain.
Ouais, donc effectivement, on va se préparer sur Dourdan. Vous, vous vous préparez combien de temps à l'avance ?
Nous commençons vraiment. Nous commençons l'organisation de la Coupe du Monde 2009, le lendemain de la Coupe du Monde 2008.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Par contre, la montée en charge est progressive et les moments chauds de l'organisation, c'est 1er décembre, 15 février, quoi, finalement. Moi, actuellement, effectivement, je suis en pleine préparation logistique. Nous avons, j'ai compté 45 avions à récupérer, finalement, pour rassembler l'ensemble de nos tireurs. On en perd toujours, vous savez.
Bien sûr, et quand on a des Tunisiens ou des Japonais qui viennent, il y a une diététique aussi appropriée qu'il faut savoir leur fournir.
Alors, heureusement, les sportifs ont à peu près tous les mêmes besoins. Beaucoup de repas à base de pâtes et de riz pour faire leur réserve énergétique pour le lendemain. C'est très exigeant, une journée d'escrime. Mais effectivement, nous sommes amenés à proposer et du poisson et des viandes un peu triées. Ça se passe en général extrêmement bien.
C'est l'épreuve, on l'a dit, phare hein, de votre année sur Dourdan. Il y en a d'autres rendez-vous importants le restant de l'année ?
Le reste de l'année, le club se consacre à l'entraînement des jeunes. Nous avons donc des compétitions minimes, Benjamin, Pupille. Nous organisons effectivement ces compétitions en novembre et en janvier. Ce sont un peu les répétitions finalement de la Coupe du Monde. Nous sommes un club de moyenne taille, hein, une cinquantaine de licenciés. Et faire trois compétitions dans l'année avec l'ensemble de nos bénévoles, c'est déjà une très belle mobilisation.
Alors, on l'a dit, 50 licenciés, c'est à peu près votre chiffre annuel. Hein, quand vous venez nous en parler, bon, vous attendez beaucoup cette année quand même de cette année olympique parce que fatalement, après chaque Jeux olympiques, il y a des retombées énormes, surtout dans un sport comme le vôtre où il y a très souvent des médailles.
Hein, tout à fait.
Et des titres.
Tout à fait. Nous avons la chance en France d'être un pays de tradition d'escrime donc, et d'avoir de très bons résultats avec de très beaux champions. Donc les jeunes souvent reviennent ou viennent à l'escrime après avoir vu les champions. Les plus anciens aussi.
Ouais.
Nous avons régulièrement des adultes qui n'avaient jamais osé faire de l'escrime et qui franchissent la porte. Ce sont en général les plus accrochés après. Parce que l'escrime, c'est un très bon sport pour entretenir sa condition physique tout en s'amusant.
Alors, on en reparlera justement parce qu'il y a effectivement ce côté compétition, mais il y a aussi ce côté loisir. Hein, et ça, ça connaît de plus en plus un énorme succès, une énorme demande. Hein.
Oui, oui. L'escrime a toute une section sport-loisir hein, qui s'adresse aux gens qui veulent faire 2-3 heures de sport dans la semaine. Et bien que les habits blancs et la tenue et on va dire, le rituel général de l'escrime paraît serein, c'est un sport dans lequel vous dépensez énormément d'énergie en peu de temps, tout en vous amusant avec beaucoup de convivialité.
Alors justement, donc 50 personnes, je l'ai dit, hein, il y a des rambolitains, des rambolitaines, il y a beaucoup de monde hein, sur Rambouillet qui vient faire effectivement l'escrime sur Dourdan. Mais vous avez aussi ailleurs, vous avez Saint-Arnoux, vous avez l'Essonne, ça va beaucoup plus loin même.
Nous drainons effectivement Saint-Arnoux, nous drainons toute la communauté de communes autour de Dourdan. Là, pratiquement l'ensemble des communes sont représentées. Et nous avons aussi une emprise scolaire relativement importante, puisque nous avons l'année dernière conduit un projet scolaire avec trois communes. Et je pense que l'escrime en milieu scolaire, c'est vraiment c'est du win-win. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Nous séduisons des jeunes, donc ils viennent enrichir nos clubs. Et en même temps, pour les professeurs, c'est un sport extrêmement éducatif, parce qu'il nécessite finalement l'acquisition de bases comportementales qui sont assez essentielles. Le respect de l'adversaire, la concentration et en même temps une très grande implication, une très grande je dirais motivation hein, pour rentrer dans un assaut.
Ouais, le mental, ça représente combien en escrime ? C'est la moitié, 50% déjà de la réussite ?
On peut le dire,
Ouais, parce que souvent les matchs basculent à cause de ça, quoi.
Les grands champions gagnent grâce à leur mental. Par contre, si vous arrivez avec seulement le mental et que les cuisses ne suivent pas, vous souffrez beaucoup.
Bien sûr, bien sûr. On voit notamment Laura Flessel qui a un mental hors du commun. Hein, et c'est ce qui, souvent, lui permet de compenser quelques déficiences physiques. Hein,
c'est indispensable à son niveau.
Oui, oui.
C'est ce qui fait la différence.
Alors, une licence, c'est de l'ordre de combien ? Et est-ce qu'on peut encore vous rejoindre ?
On peut nous rejoindre à tout moment de l'année. Nous, nous adaptons les tarifs en fonction de la durée. En fait, notre motivation, elle est essentiellement d'avoir de nouveaux partenaires. On pratique l'escrime en France, et en particulier à Dourdan, pour à peu près 200 euros sur l'année.
200 euros sur l'année, ça c'est la cotisation ou la licence?
C'est l'ensemble.
C'est-à-dire que vous fournissez aussi les armes, les équipements?
Nous prêtons le matériel les deux premières années pour que les gens n'investissent pas immédiatement. Et puis, dans ce tarif-là, vous avez des cours. Vous avez des cours. L'escrime, ça s'apprend.
Bien sûr, oui. Mais parce que le problème, c'est sûrement le problème, effectivement, l'équipement. Parce qu'une arme, ça doit coûter horriblement cher. Et puis, on doit peut-être aussi avoir un jeu d'armes dans une année. On peut peut-être pas, avec une seule arme, faire à la fois et de la compétition et des entraînements.
Ah non, à nos niveaux, nous gardons le même sabre. Mm-hmm. Il arrive de casser une lame. Mm-hmm. En général, contre la lame d'un adversaire, pas sur son dos. Et le matériel, il y a un très, très gros marché de l'occasion. Parce qu'en fait, les tireurs grandissent. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. En général, on s'en sort pour pas très cher. Et je vous dis, la première année, il faut compter 250 ou 300 euros. Et après, en entretien, pour environ 200 euros, vous pratiquez effectivement l'escrime sans problème, avec un encadrement de qualité et avec effectivement des leçons techniques pour progresser.
Et alors justement, l'encadrement, donc il y a Maître Palfi, hein, qu'on ne présente plus, hein, c'est un monument, je dirais, du sabre, mais vous avez aussi d'autres entraîneurs diplômés, d'autres éducateurs,
Aujourd'hui, nous avons essentiellement Maître Palfi comme maître d'armes à Dourdan. Et puis, vous savez, le fonctionnement du maître d'armes, c'est un fonctionnement un peu par parrainage et cooptation. C'est-à-dire que les tireurs les plus chevronnés font tirer les tireurs débutants. Parce que nous sommes dans un sport où il est toujours amusant, y compris pour quelqu'un de chevronné, de faire tirer en fait un débutant. Il va simplement se donner des handicaps, hein, ne pas s'autoriser un certain nombre de gestes. Et dans ces conditions-là, c'est pas tout à fait comme le tennis, si vous voulez. Tout le monde peut trouver son compte dans un assaut, y compris quand il y a des grosses différences de niveau. Et donc, l'ambiance d'une salle d'armes, c'est vous n'avez pas le droit de refuser un assaut à un tireur qui vous le demande. Tout le monde tire avec tout le monde.
D'accord. Et justement, les maîtres d'armes, il faut une spécialisation. C'est comme pour dans d'autres sports, des éducateurs, il faut passer des brevets, des diplômes, ou finalement, comme vous le dites, c'est une reconnaissance finale.
Alors c'est très codifié. Hein. Ouais. Il y a effectivement, comme dans tous les sports, des brevets d'État, premier, deuxième degré. Maître Palfi est à très haut niveau effectivement dans ce domaine. Et ça c'est assez essentiel parce qu'en fait, la main du maître d'armes, c'est quand même ce qui fait l'élève.
Bien sûr, c'est un peu comme le maître pour un art martial. Hein. C'est pareil. Hein.
Exactement. C'est un art martial.
Oui, bien sûr. Au départ, c'est vrai que ça part d'art martial. Il est comment, Maître Palfi? Il est naturellement très aimé, mais il est aussi très respecté. Il est très exigeant lors d'une séance d'entraînement. Il aime qu'on arrive aux heures. Il aime qu'on écoute. Il aime ceux qui en veulent, ceux qui sont motivés.
L'escrime, c'est la rigueur. Donc, Maître Palfi, quand il est à la salle, il est rigoureux. Ouais. Et nous en connaissons deux, Maître Palfi. Celui jovial, convivial.
Qui vient à notre micro
quand il a enlevé son masque.
Voilà.
Et celui que nous avons devant nous à la leçon quand il remet son masque. Et là, c'est toute la rigueur, rigueur que nous souhaitons d'ailleurs, parce que pour apprendre des gestes à l'escrime, eh bien, il faut être rigoureux. Vous savez, ce sont des trajectoires de mains, des gestes de jambes qui sont très précis. Tout dixième de seconde perdu face à l'adversaire, et c'est le risque de perdre le point.
Il y a combien de séances d'entraînement sur l'année, sur Dourdan?
Nous entraînons deux fois par semaine.
D'accord.
Et nous avons une troisième séance d'assaut libre. Alors, petite référence diététique, une séance de 2 heures d'escrime, dans laquelle vous vous ennuyez pas, c'est 1000 calories. 1000 calories. Donc, écoutez, tous ceux qui ont envie de faire un sport dans lequel ils retrouvent une dépense énergétique sans pratiquement la sentir passer, je vous invite à venir essayer l'escrime, en particulier le sabre, parce que de ce point de vue, c'est un système de mise en forme extraordinaire.
Alors, c'est le mardi, jeudi, non? Sur Dourdan,
c'est le mardi soir et le jeudi soir.
Oui.
Travaillons effectivement à partir de 20h, 20h, 22h, ce qui permet à tout un chacun de venir faire du sport après le bureau. Nous sommes très souples dans le fonctionnement de la salle d'armes, c'est-à-dire que moi, j'ai coutume d'arriver souvent à 20h30, même des fois un petit peu plus tard.
Ouais, donc on peut prolonger. Vous avez le gymnase pour vous, non?
Nous avons la salle d'armes pour nous, effectivement.
C'est une salle d'armes.
C'est une salle d'armes. C'est une salle que nous avons adaptée, hein, que la municipalité nous a adaptée, et qui nous permet effectivement de nous entraîner de façon relativement souple, hein, jusqu'à 22h, voire 22h30. Oui, effectivement.
On va rappeler où se trouve la salle d'armes.
La salle d'armes se trouve au gymnase Innoventura, près des lycées de Dourdan, juste à côté du stade.
D'accord. Et vous, votre compétition, ça sera au gymnase Bio, c'est ça, hein,
dimanche prochain. Alors, le gymnase Nicolas Bio, qui est le grand gymnase de Dourdan, qui est juste à côté, en fait, juste à côté du stade.
Oui, les deux gymnases sont, sont proches.
Et que nous équipons spécifiquement pour l'occasion. Si vous venez nous voir, vous verrez que vous ne reconnaîtrez pas le gymnase. Hein. C'est une grande salle moquettée de couleurs avec des pistes extraordinaires.
Donc, la tranche d'âge représentée, vous avez des jeunes. À partir de quel âge on peut venir rejoindre un club d'escrime comme le vôtre ?
Typiquement, on vient à 6 ans. À Dourdan, nous prenons les jeunes à partir de 6 ans. Certains clubs font du ludo-escrime, mais là, on peut commencer à partir de 4 ans. Nous ne faisons pas ludo-escrime. Par contre, nous prenons les jeunes à partir de 6 ans. Et à 6 ans, ils ont déjà un vrai sabre en acier.
Ils doivent être fiers.
Ils sont très fiers. Ils sont très fiers d'expliquer à leurs camarades que ça ne se manipule pas n'importe comment et qu'il y a des règles de sécurité et que quand on a le sabre à la main, on n'est plus le même. On a la pointe vers le bas et on attend que l'adversaire ait mis son masque pour faire quoi que ce soit.
Mais alors, comment ça se passe une séance d'entraînement ? Parce que c'est jeune, donc à 6 ans, et puis il y a ceux qui viennent en loisirs. Mélanger tout ce monde, comment ça se passe ? Alors, ça ne doit pas être facile de ménager et le jeune qui s'éduque donc à l'escrime et puis celui qui en vient pour le loisir et pour le fun. Quoi.
Effectivement, on ne mélange pas. On a une école d'escrime pour les plus jeunes. Et quand donc l'école d'escrime, c'est une heure de cours collectif assez intense. Hein, ils reviennent bien calmés. Et puis ensuite, c'est la salle d'armes, donc 2 heures. Et la salle d'armes, le régime, ce sont à la fois des leçons individuelles avec Maître Palfi, un entraînement collectif dit fondamentaux, parce qu'il faut avoir des bonnes cuisses pour faire l'escrime. Et puis ensuite, des assauts dans lesquels, effectivement, tous les tireurs ont l'occasion de se rencontrer. Les plus chevronnés, eh bien, de tester leurs différentes attaques ou parades. Et puis, les plus débutants, eh bien, d'avoir l'occasion, avec des gens un peu plus chevronnés, de s'entraîner.
Alors, 6 ans pour le plus jeune ou la plus jeune. Et puis, le plus ancien ou la plus ancienne, quel âge pour le loisir ?
Alors, nous avons 70 ans.
Oh là, c'est beau.
Et dans la région, le record est battu. Hein, des tireurs de 80 ans qui tirent encore en compétition vétéran.
Ah ouais.
Avec le respect de leurs jeunes camarades.
Malgré la dépense de calories.
Alors, effectivement, à 80 ans, on tire plus sagement.
Voilà,
et l'expérience permet d'attendre le jeune fougueux et de parer son attaque et de riposter sèchement. Il faut faire très attention aux vieux tireurs.
Alors, vous en avez beaucoup qui tentent, donc le coup de la compétition, qui tentent le pas vers la compétition.
La compétition, c'est une suite naturelle pour l'escrime, parce qu'il faut pouvoir de temps en temps, ne serait-ce que rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, pour savoir où on en est. Donc, nous avons des jeunes, des minimes, qui sont... cette année, nous avons une jeune minime qui est sélectionnée pour la rencontre interzone qui se situe à Nantes, dernière étape avant la rencontre nationale. Et puis, nous avons une équipe vétéran qui est assez active, 5 ou 6 vétérans qui, typiquement, sillonnent le circuit national avec de très bons succès en vétérans femmes. Alors, vous allez me faire un peu rougir, mais c'est mon épouse, Laurence Duval-Destin, qui est aujourd'hui 2e du classement national vétéran-femme.
Eh oui, parce qu'on l'oublie, mais donc il y a beaucoup, effectivement, dans l'escrime, il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui font ce sport. C'est un sport qui plaît donc chez les femmes, l'escrime.
Ça progresse énormément.
Eh oui.
Et puis vous savez, derrière un sabre, le sabre fait la même longueur pour tout le monde. Donc il y a une certaine égalité. Et ce n'est pas une question de force, c'est une question aussi de finesse, de rapidité. Et donc les femmes ont leur chance et battent régulièrement les hommes.
Alors, justement, les résultats sont bons sur Dourdan pour l'escrime d'une façon générale ?
Eh bien, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, de très bons résultats en vétéran. Et puis en jeune, eh bien, c'est un petit peu plus aléatoire parce que ça dépend aussi des âges. Vous savez, une année en Benjamin, ils sont très motivés. L'année suivante, un petit peu moins, ils reviennent. Et donc, cette année en minime, effectivement, nous avons une bonne minime qui est en train de progresser également.
Et au côté, justement, au niveau donc loisir, est-ce que certains ont franchi le pas après, sont venus en loisir pendant quelques années, et puis on dit un jour, tiens, j'aimerais bien m'initier un peu à la compétition.
Alors,
c'est arrivé, ça aussi ?
Ça arrive beaucoup. Souvent, en adulte, en vétéran, on oscille entre une vision loisir, une vision compétition. La compétition vous stimule de temps en temps, mais globalement, quand je parle de notre équipe de vétérans, on est quand même une équipe de sport loisir. C'est-à-dire que nous participons, par exemple, à beaucoup de rassemblements dans lesquels le premier enjeu n'est pas la compétition, mais la convivialité. Et, si vous voulez, l'année dernière, par exemple, nous avons participé à une rencontre organisée au niveau de Paris à la Halle Carpentier.
Ah bien.
C'était une poule unique de 27 personnes. Donc 27 personnes qui amènent chacun leur quote-part pour le déjeuner. Et pendant la journée, vous vous rencontrez, vous faites 26 matchs. Mmh. Et ça, c'est l'esprit de l'escrime sport-loisir, où vous rencontrez 26 personnes que vous connaissez relativement peu au départ et avec qui, dans la convivialité, eh bien, vous échangez des assauts.
Alors c'est vrai que on a un regard un peu différent sur ce sport aujourd'hui, d'abord parce que c'est un sport qui attire toujours des médailles aux Jeux, donc on en parle naturellement toujours en bien, et puis on l'a rendu aussi beaucoup plus accessible, beaucoup plus télégénique à travers les commentaires, à travers les retransmissions. Ça a joué énormément quand même dans votre sport, hein.
C'est un sport très médiatique, c'est un sport très beau. Dès lors qu'il est bien expliqué, il est facile à comprendre, hein. En fait c'est effectivement relativement simple. Le sabre est tranchant, il est pointu, il faut l'éviter. Et quand vous avez réussi à éviter l'attaque de votre adversaire, eh bien, vous pouvez riposter et le toucher. Ça s'allume, rouge d'un côté, vert de l'autre. On voit tout de suite qui a gagné. Et les gestes sont magnifiques. Les gestes sont rapides, magnifiques. Essayez de faire la même chose dans votre jardin, vous allez voir, c'est pas facile. Mais avec un peu d'entraînement, vous amusez très très vite.
Et puis une carrière donc, peut durer effectivement très longtemps, hein. On peut aller jusqu'en vétéran, comme vous l'avez dit. Et puis, on n'en vit pas que le sport, on a une activité en parallèle. Même les plus grands champions, bon, il y a des sponsors, hein, ils gagnent un peu d'argent, mais ils sont obligés quand même de faire autre chose à côté, hein.
Effectivement, c'est un sport où nous rencontrons beaucoup de gens qui ont une activité à côté, et justement qui développent, je dirais, toute une culture autour de l'escrime, parce qu'ils ne sont pas uniquement concentrés sur l'escrime. Donc ils ont une période de très haut niveau, ils ne font que ça. Et après, effectivement, ils ont le métier à côté, et ces métiers sont très variés, ça va jusqu'à ministre. Hein,
vous savez. Oui, mais j'allais justement vous poser la question, est-ce que l'ancien ministre, M. Lamour, qui a été un grand sabreur, sera à Dourdan ?
Écoutez, je ne sais pas encore. Bien sûr, nous l'invitons comme tous les ans. Ouais. Vous savez qu'il connaît très bien Georges Palfy.
Oui, oui,
il a beaucoup regretté de ne pas venir l'année dernière pour la 25e. Ouais.
Maintenant qu'il a un peu plus de disponibilité.
Et nous allons retenter notre chance.
Ouais. Donc c'est une école de la vie aussi, on l'a dit, le respect des règles, le respect de l'adversaire. Et puis il faut le mental, il faut le physique, et puis il faut aussi la technique.
Il faut la technique, il faut le respect de l'arbitre. Mmh. C'est un sport où l'arbitre n'est jamais contesté. Ça, il faut le dire.
Bah, y a les touches électroniques, donc c'est difficile quand même. Hein,
Ah, il y a quand même un jugement en plus.
Ouais, ouais.
Mais ça fait partie du fair play de l'escrimeur. On ne conteste pas l'arbitre. Éventuellement, on peut demander à revoir la décision. Vous savez qu'on a l'arbitrage vidéo depuis quelques temps, qui permet à un escrimeur au niveau international de demander la vidéo. Et à chaque fois qu'il a raison en demandant la vidéo, il garde ses droits à la vidéo. Par contre, à chaque fois qu'il demande la vidéo et qu'il a tort, il perd, je dirais, son quota de droit à la vidéo.
Ah,
ce qui montre qu'il ne faut pas contester de façon irraisonnée quand on est escrimeur.
Et puis, on a des versements de situations complètement fous. Hein, ça arrive dans certains matchs. Hein.
Alors, il y a des retournements, effectivement, qui sont fabuleux. Et c'est là que vous disiez que le mental intervient. Quand vous avez pris l'ascendant, effectivement, moral sur votre adversaire, alors la technique passe au second plan. Ce sont des volontés qui s'affrontent, et vous avez un côté ciseau, caillou, feuille dans cette affaire où il faut savoir, c'est de deviner finalement quel jeu va jouer l'adversaire, et des touches se jouent parfois sur des enchaînements de deux ou trois touches dans lesquelles on change de tactique d'une fois sur l'autre. Et les grands champions le font de façon merveilleuse.
Bien sûr, c'est aussi pousser son adversaire à la faute quelque part.
Oui.
Essayer de l'obliger à aller à la faute, quoi.
Oui, ça n'est pas le plus agressif qui gagne forcément.
Bien sûr.
C'est parfois attaquer, le plus malin,
le plus technique. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même cette grande exigence physique. On se blesse souvent en escrime.
On se blesse très peu en escrime. On se blesse très peu. Les grands champions, oui, parce qu'ils tirent sur le corps, comme dans tous les grands sports. Mais quand vous le faites à un niveau loisir, vous vous blessez très peu. On est très bien protégé. Par contre, il y a une très grande rigueur d'échauffement. En particulier au niveau des jambes, parce que c'est un sport extrêmement exigeant au niveau des jambes. Vous transpirez beaucoup, vous avez mal aux jambes, et quand vous avez fini vos deux heures d'escrime, vous avez fait du sprint et du saut en longueur pendant finalement deux heures.
Et vous l'avez dit, donc on perd 1000 calories, ça représente 2-3 kilos par assaut, par séance.
Ça représente effectivement beaucoup d'eau. On boit toute cette eau pendant toute la séance, ça fait partie de l'hygiène de l'escrimeur. Et puis ça représente une heure de footing très très soutenue, 1000 calories.
Oui, puis le cœur, le palpitant quand même, parce que il y a ces assauts, il y a ces écarts dans le rythme, ces accélérations.
C'est un très bon exercice cardiaque. Vous montez en rythme, puis après vous récupérez. C'est très rythmé. Un assaut, c'est 10 secondes, 15 secondes. Puis après, vous soufflez, il y a le rituel de remise en place. Vous réfléchissez à la suite. Donc vous redescendez et hop, vous réentraînez votre cœur. Et de ce point de vue, c'est excellent. C'est un exercice fractionné et les athlètes me comprendront.
Est-ce qu'il y a une arme qui oblige à être plus physique ? Le et puis une autre qui oblige à être plus technique ou plus...
Le sabre est souvent jugé plus physique. Les assauts sont plus rapides. Mmh. L'épée est plus tactique. Parce qu'en fait, en épée, si vous arrivez à prendre le pas sur votre adversaire, après, si vous l'obligez à devoir attaquer, vous avez effectivement l'ascendant.
Mmh, d'accord. Et puis, mais par contre, le mental, il reste pour les trois armes. Hein. Ça change pas.
Hein. Et c'est l'intérêt de notre sport, en particulier pour tous ceux qui cherchent effectivement un espace d'évasion. Quand vous tirez en escrime, vous ne pensez qu'à ça.
Alors, il y a aussi un côté, je dirais, un peu sécurisant pour les parents, c'est que c'est pas un sport très dangereux. Il y a parfois un petit pépin qui peut arriver, mais c'est un sport peu dangereux quand même, il faut le dire. Hein.
C'est rarissime. Je dirais la blessure la plus courante, c'est un petit coup de sabre sur la main non gantée. Et donc vous avez une petite plaie sur la main gauche ou sur la main droite si vous êtes gaucher. Mais ça, on en a une, deux, trois dans l'année sur 50 tireurs, si vous voulez. Mmh. Hein, en général, la bombe à froid, une petite bombe qui fait du froid directement, c'est le seul remède dont on a réellement besoin.
Ouais. Et puis, on a pris énormément de précautions hein, pour la sécurité aujourd'hui. Hein.
C'est indispensable et ça fait partie de l'éducation de l'escrimeur. Vous ne verrez jamais dans une salle d'armes deux escrimeurs jouer avec leur sabre alors qu'ils ne sont pas protégés. Mmh. Ça n'arrive jamais.
Et puis même au niveau, on a des casques complètement maintenant, hein, on a renforcé aussi.
Vous avez des casques qui sont maintenant extrêmement bien faits, même le casque transparent qui résiste à des pressions énormes. Vous avez un habit multicouche, hein, on a au-dessus, sous la veste et le pantalon, une sous-cuirasse qui permet de garantir l'étanchéité vis-à-vis des lames. Donc la protection est totale. Et ça ne fait pas mal.
Ouais. Et ça rassure les jeunes parents parce qu'on vous pose cette question quand on inscrit son jeune ou sa jeune fille à l'escrime en disant est-ce que c'est un sport qui est pas dangereux parce que on manie des armes donc fatalement ça fait peur quoi.
Très souvent. Les parents viennent souvent en première séance et en fait ils remarquent que nous disciplinons les enfants souvent bien plus qu'ils ne sont disciplinés à la maison.
Bien sûr.
Et ils s'y prêtent les enfants parce qu'ils ont envie en fait d'être sérieux. Mmh. Et d'avoir la responsabilité d'avoir une arme dans la main. Mmh. Ensuite, l'équipement fait que vous n'avez jamais aucune blessure. Mmh. Je me souviens d'une mère de famille qui s'était un petit peu plainte parce que son fils avait souvent des bleus à l'épaule. Mmh. Et on était avec son fils qui enlève sa veste et je vois qu'à ce moment-là, il n'avait pas mis sa sous-cuirasse.
Ah oui.
Mais où as-tu mis ta sous-cuirasse ? Oh, j'avais pas envie de la mettre. Donc ça, c'est pas normal. Mmh. On lui fait remettre et depuis, il n'y a jamais de bleu. C'est un sport où on touche, on ne frappe pas.
Mmh. Ouais, oui, mais
alors, évidemment, quand on est débutant, on a tendance à appuyer ses coups, ça arrive. Mmh. Mmh. Ou quand on est un peu énervé.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle de l'équipement, parce qu'il y a une particularité dans votre sport, c'est que la tenue, elle reste blanche. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de tenue fluo encore.
Il n'y a pas de tenue fluo, il y a un petit peu de fantaisie.
C'est-à-dire
que certains ont des tenues, les Français ont parfois des tenues bleu-blanc-rouge, c'est autorisé.
Oui.
Les vestes électriques. Vous savez, on a une tenue blanche de protection, et puis par-dessus, vous avez une veste électrique. Les vestes électriques sont parfois colorées aussi, c'est pas interdit. Nous, dans notre sport, au niveau du sabre, tout doit être électrique et tout doit être conducteur à partir de la taille jusqu'à la tête. Donc, on peut pas mettre beaucoup de couleurs, hein, il faut rester conducteur. Mais par exemple, au fleuret ou à l'épée, le masque n'est pas conducteur et les tireurs s'amusent à peindre des visages plus ou moins effrayants.
Ah d'accord, c'est pour faire peur, c'est pour impressionner.
Il y a un peu de fantaisie quand même. Hein. L'escrime s'est ouvert à la fantaisie de ce côté-là, tout en gardant la rigueur d'un sport ancestral.
Mmh. Est-ce qu'il y a un peu d'intox quand on rentre sur un tapis? Justement, le mental aussi, c'est ça. Hein. Est-ce que ça ne se gagne pas avant d'entrer sur la piste?
À tous les niveaux, et oui. dès les plus débutants, il y a de l'intox. Mmh. Soit pour impressionner l'adversaire, soit au contraire pour endormir sa méfiance. Mmh. Quand vous n'êtes pas très sûr de vous, vous avez parfois intérêt à faire croire à vos adversaires que vous êtes carrément débutant.
Bien sûr.
Avez des chances à la première, à la deuxième touche de gagner en conséquence. Mmh. Et puis parfois, à l'inverse, hein, de montrer énormément d'assurance. Il y a de l'intox tout le temps et ça fait partie du jeu.
Bien sûr. Et bon, quand vous avez été présent, comme vous l'avez été pendant 3 ans, hein, et puis on vient parler donc aux compétiteurs avant d'entrer donc sur la piste, ou comme Georges Palfi, on parle, on les rassure, on les...
C'est très codifié.
Ouais.
C'est très codifié.
Ça dépend peut-être aussi des...
Le coach n'a pas le droit de parler aux compétiteurs.
Même avant la compétition?
Si, avant, oui. Pendant le match, non, sauf à la pause. Alors, on voit souvent les coachs transgresser cette règle, mais c'est tellement important, le coaching, qu'effectivement, dès que le niveau monte un peu, c'est très codifié. Est-ce qu'il suffit d'un mot, parfois, pour faire prendre conscience à un tireur qu'il est en train de se faire, je dirais, jouer par son adversaire et de renverser une bonne partie du match, hein.
À partir de quel âge on se spécialise, on ne peut plus changer d'arme?
On peut toujours changer d'arme.
On peut toujours, même à 30, 35 ans, on peut dire, allez, je change de...
Chaque arme a ses caractéristiques.
De spécialité.
Nous rencontrons très souvent des épéistes qui sont parfois un peu en échec à l'épée, qui cherchent à retrouver quelque chose et qui viennent travailler leur déplacement au sabre, par exemple.
D'accord.
Et les maîtres d'armes, d'ailleurs, pratiquent les trois armes.
Oui, bien sûr, obligé. Ah oui, on n'est pas spécialisé dans une arme.
Quand on est maître d'armes, on a un niveau minimum sur les trois armes. On se spécialise souvent vis-à-vis de son club ou ses tireurs, mais on a un niveau minimum sur les trois armes.
Alors, monsieur Duval d'Estaing, les Jeux Olympiques, on l'a dit, hein, ça va être la vitrine pour votre sport. Vous en attendez beaucoup de cette année 2008. On peut espérer beaucoup de médailles parce que l'escrime, c'est toujours un sport sur lequel on compte le plus, quoi.
Alors, je laisserai le président de la fédération faire ses pronostics. Vous savez, c'est un sport
Frédéric Pietruska.
Exactement.
Hein, grand escrimeur devant l'éternel. Hein.
Exactement. Nous attendons effectivement un accroissement des jeunes essentiellement. Ce sont les jeunes entre 6 et 14 ans qui redécouvrent ce sport au travers de la télévision, mais aussi, je vous dis, des parents qui se disent, après tout, j'ai toujours rêvé d'en faire, est-ce que je peux en faire? Moi, j'ai commencé à 40 ans, ma femme a commencé à 40 ans.
Elle gagne, donc, vous voyez.
Elle gagne, donc tout est possible. Et le plaisir est immédiat. Au bout de 3 mois, vous avez beaucoup de plaisir. Et regardez nos champions, vous verrez, ce sont des gestes extraordinaires, ce sont des matchs tendus, passionnants. Et en rejoignant finalement l'escrime, on a la chance, dès quelques semaines, de pouvoir aussi faire des matchs intéressants, passionnants, amusants. Avec ses partenaires.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à avoir du mal à gérer cet afflux de pratiquants ou pratiquantes? Vous avez les moyens, vous, de par vos infrastructures, de par votre club, sur Dourdan, de recevoir un afflux assez important de nouveaux pratiquants et pratiquantes?
Alors, c'est vrai, si vous voulez, que nous faisons en général le plein à l'école d'escrime. L'école d'escrime de Dourdan, c'est pratiquement une trentaine de jeunes tous les ans. Et heureusement, ils grandissent, ils passent à la salle d'armes. Donc, nous avons effectivement encore une capacité d'accueil tout à fait significative. Mais c'est vrai qu'il faut traîner en général en début de saison au niveau de l'école d'escrime parce que nous avons toujours beaucoup de succès et nous remplissons l'école très, très rapidement.
Et les jeunes, ils restent à l'année ou c'est comme dans tous les sports, quoi. Ça va, ça vient.
La période critique, c'est toujours, vous la connaissez bien, c'est l'adolescence, hein, entre 13 et 15 ans. C'est là qu'on a des fois un petit peu plus de mal à concilier vie personnelle et rigueur d'entraînement. Nous voulons revenir vers 17-18 ans, après une période de qui ont envie de retrouver les joies de le sport. Moi, je dirais, c'est la vie, c'est pas grave. Au contraire, l'escrime, c'est comme le vélo. Ça se perd un petit peu, mais pas beaucoup, et on peut recommencer assez rapidement.
Et puis ensuite, dans sa vie de tous les jours, on se félicite de faire l'escrime. On se dit, c'est un sport qui m'a beaucoup apporté sur un plan personnel, sur le plan de la discipline, sur le plan de l'éthique. Et ça, c'est important.
Ça apporte énormément au niveau des relations humaines. Parce que c'est un sport malgré tout agressif, beaucoup d'opposition. Si on veut que ça reste convivial, il faut savoir être ouvert, être fair play. Et c'est aussi un sport qui apprend l'opposition des volontés. Donc ne serait-ce que des conditions, je dirais, que vous retrouvez dans la vie professionnelle, de discussion, s'apparente tout à fait à des matchs d'escrime. Il faut savoir être patient, il faut savoir défendre, contre-attaquer, ou au contraire être vif et rapide en fonction des circonstances. Et de ce point de vue, c'est une vraie école de la vie, une vraie école de comportement.
C'est un sport qui peut être donc un sport donc individuel, qui peut être aussi sport collectif. Ça arrive, parce que il y a des compétitions individuelles, hein, dans les grandes compétitions, mais il y a aussi des compétitions par équipe. Et là, on voit des escrimeurs et escrimeuses complètement soudés. Hein.
C'est très important ce que vous dites là, parce que pratiquer un sport individuel, quand on le pratique par équipe, on le pratique différemment, avec beaucoup plus d'implication. C'est un très grand plaisir de tirer en équipe. On tire parfois avec beaucoup plus de relâchement, parce qu'en fait, on donne son énergie et sa volonté à toute l'équipe, et parfois avec moins d'inhibition. On voit des tireurs qui s'éclatent complètement.
Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont des meilleurs résultats en équipe qu'en compétition individuelle. Hein. Ils arrivent à se métamorphoser. Hein.
Oui, la peur de gagner, la peur de perdre ou de gagner, effectivement, s'estompe. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui se révèlent complètement quand ils tirent en équipe.
Ouais, c'est un peu comme la Coupe Davis pour le tennis, quoi. Ça transcende des fois certains compétiteurs, certains sportifs. Hein.
Oui, et on en voit qui font des grosses remontées. Vous savez, en escrime, on compte les points en continu. Hein. C'est le premier arrivé à 30, à 45, en fonction des règles. Et de ce point de vue, on voit des gens dont on ne soupçonnerait pas, effectivement, qui sont capables de reprendre 10 points, 15 points pour leur équipe.
Alors, avant de passer sur le ballon ovale, Monsieur Duval-Destin, on va peut-être quand même rappeler donc, que donc, on peut venir vous rejoindre. Ce n'est pas, c'est pas exclu, on peut venir vous rejoindre. Écoutez, dès maintenant, on s'inscrit sur un site internet, on vient à une séance, ça se passe comment ?
Nous avons un site internet, il suffit de taper Sabre Dourdan sur les moteurs de recherche classiques et vous retrouverez toutes nos coordonnées. Vous venez nous voir très simplement et on vous initie directement. Venez nous voir aussi à la Coupe du Monde, nous serons tous là et nous accueillerons aussi ceux qui veulent pratiquer l'escrime les 16 et 17 février prochains, toute la journée. L'entrée est gratuite au gymnase Nicolas Billot et venez rejoindre les jeunes de 20 nations différentes qui viendront pratiquer un sabre de très très haut niveau.
Alors justement, on va rappeler le programme parce qu'il y aura des imitations, des imitatoires donc, dans les journées de samedi et la finale dimanche.
Alors le samedi, c'est l'épreuve féminine avec finale dames donc le samedi après-midi.
Ah, il y a quand même la finale le samedi, d'accord. D'accord.
Et puis le dimanche, c'est la compétition homme avec la grande finale homme le dimanche, pareil, vers 16h. L'équipe de France handisport nous fera le plaisir de venir animer effectivement ces deux journées et de tirer aussi en exhibition entre eux et avec les tireurs juniors qui nous auront rejoints.
Vous attendez beaucoup de monde, donc ça sera gratuit, ça sera payant ?
C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Nous remplissons en général l'ensemble du gymnase. Nous attendons cette année encore, les écoles et collèges viendront nous voir le samedi avec les professeurs.
Ah, c'est bien ça.
Parce que ça fait partie
effectivement. Et oui, il y a école le matin, donc c'est bon.
Il y a école le matin, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre autour de l'escrime. Toute une éthique, tout un rituel. Et donc, les professeurs aiment bien venir faire toucher du doigt ces choses-là à leurs élèves.
Très bien. Et bien, ceux qui veulent donc vous rejoindre, ils viennent sur ce week-end de compétition ou sinon donc le site internet ou alors donc ils viennent sur une séance d'entraînement le soir.
Nous accueillons sans problème les débutants aux séances d'entraînement pour leur faire goûter notre sport parce que nous sommes confiants. Quand on y a goûté, on ne s'arrête plus.
C'est un sport phare sur Dourdan, on peut le dire.
C'est un sport phare sur Dourdan, avec quelques autres sports qui ont une renommée mondiale sur Dourdan. Mais nous faisons partie effectivement des sports qui sont très très en vue.
Très bien. Eh bien, écoutez, on sera en direct la semaine prochaine sur Mullion et on aura aussi un petit direct avec vous ou Maître Palfi pour effectivement parler de cette 26e édition de la Coupe d'escrime sur Dourdan, Coupe de sabre, qui est toujours un des grands événements sportifs de l'année donc sur la région.
Et nous en sommes ravis.
Très bien. Vous restez avec nous, parce qu'on va parler de ballon ovale et auparavant avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Salut Philippe.
De pelote basse, parce que c'est bien, Hervé, on parle de tout, et on parle aussi d'escrime et de pelote basse, donc des sports peu méconnus, très spectaculaires. J'ai été très largement...
Peu connu, tu veux dire.
Ouais. J'ai été en tout cas très impressionné vendredi soir au fronton.
J'en suis ravi parce que... On disait que c'était un sport tout à fait confidentiel et avec ses nombreuses disciplines, puisqu'il y en a au minimum 12 disciplines avec différents appareils, etc. Et je suis ravi que tu aies fait cette découverte, parce que tu as vu quand même que les gradins étaient archi-combles. C'est vrai que le plateau était très relevé, puisqu'il y avait des Chiliens, des Mexicains, des Argentins, des champions du monde, des champions de Coupe du Monde, etc. Donc le plateau était très relevé. Et tu as pu assister à une discipline qui est tout à fait méconnue, même par les gens qui sont très amateurs de la pelote basque, c'est le charré, le fameux charré. Alors le charré, qu'est-ce que c'est le charré ? Ça s'écrit X-A-R-R-E. Mais comme dans le Pays basque, on prononce le X tché. Bicente Lizarazu et non pas Bixente Lizarazu. Tu as pu constater que ça se joue avec un instrument tout à fait particulier, très difficile à réaliser. C'est une petite raquette, un pourtour en osier et avec un tressage de filet, un petit peu comme un filet de pêche. Et c'est incurvé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de revers. On ne peut jouer qu'avec les deux mains. Et donc, il faut être parfaitement ambidextre pour jouer à ce niveau-là. Et tu as vu pourquoi le casque est obligatoire.
Bien sûr.
Parce qu'on joue avec une balle extrêmement dure. Ça va à 300 à l'heure.
Ouais. Alors, on parlait d'une grosse dépense physique pour l'escrime, mais là, c'est pareil.
C'est extraordinaire. C'est même... on peut dire que le sport le plus physique qui existe sur un temps relativement très court, c'est le squash. Or, c'est encore plus rapide que le squash. Parce que la balle va à 300. 300 à l'heure. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand elle frappe le mur, elle frappe le mur et elle revient à 300 à l'heure.
Ouais, ouais, ouais.
C'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire. Et la rapidité. Ce sont des artistes. Hein.
Bien sûr,
on a vu les champions du monde qui ont failli être battus à un point près.
Et justement, le mental a joué. Ils ont perdu la première manche. Ils n'étaient pas très bien partis dans la troisième manche.
Ouais.
Et puis, ils sont venus coiffer leurs adversaires sur le fil.
À un point près.
Ah, ouais, ouais.
Un point près, puisqu'ils gagnent dans la troisième manche.
19. Ils étaient menés 9-6.
Ils étaient menés
9-6. Ils avaient perdu la première manche. Comme quoi, là aussi, le mental fait la différence.
Hein. Alors, on peut dire que c'est un sport qui est très difficile à rendre médiatique parce que ouais, ça va tellement vite. Ouais. C'est très difficile, on peut pas suivre la balle, c'est impossible. Déjà quand on est au bord du quand on est dans les gradins, c'est très difficile de suivre la balle si on pourrait le téléviser, mais on pourrait téléviser c'est-à-dire mettre la caméra derrière et en face du mur, hein, derrière, et à ce moment-là, on ne verrait que les déplacements des joueurs. Mmh. Mais on verrait pas la balle. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est pas très télégénique, quoi.
En tout cas, énorme succès. Hein. Je crois que Monsieur Goyenech, qu'on a eu la semaine dernière, était ravi hein, de ces trois jours de compétition.
Et puis tu as vu le chapiteau après le chapiteau avec les repas. Il y avait 600 repas, 600 personnes qui mangeaient sous le chapiteau. Mmh. Donc on dit que c'est un sport très confidentiel, mais finalement si on y met un peu du sien. Si on arrive à amener un ami, lequel amène un ami, etc., on y prend tellement goût qu'on est obligé d'y revenir. C'est obligatoire, quoi. C'est tellement absolument spectaculaire. Je pense que tu es de mon avis.
Absolument.
Et je suis ravi de t'y avoir amené.
Voilà, puis on y reviendra l'année prochaine.
Voilà.
Et puis hier, naturellement, on a dû parler de ballon ovale aussi, Jean-Michel. Hein.
Ah ben oui.
Après, donc, ce match un peu flou qu'on a vécu. Alors, la semaine dernière, on s'inquiétait sur l'équipe de France. On demandait comment elle allait aborder le tournoi. On a été très agréablement séduit. Hein, cette équipe de France qui s'est imposée 27-6 contre l'Écosse. Hier, on est passé par tous les états, match un peu fou à l'arrivée, donc 26-21 pour cette équipe de France qui, pour l'instant, est en tête du tournoi avec le Pays de Galles.
Alors, j'ai titré mon papier « Dr Jekyll et Mr Hyde ». Ou comment peut-on produire deux matchs complètement différents en une seule rencontre ? Jamais, depuis très longtemps, jamais, on avait assisté à une première mi-temps aussi enthousiasmante, mettant le feu à un stade de France complètement sous le charme du trio Rougerie, Emmans, Claire. Quel régal, quoi.
Ouais.
Rien à dire, y compris devant, où la première ligne était, à contrario du premier match, performante, et surtout parfaitement solidifiée par la seconde ligne, mais là, n'allait.
Mm-hmm.
Grand mais là. Hein.
Ouais, ouais.
Grand mais là.
Prometteur.
Au Citron, le match était complètement plié. 19-6, le match était plié. Mais qu'est-ce qui a pris à Lièvremont de changer deux éléments de la première ligne alors qu'il y a une mêlée à 5 mètres de notre ligne? Qu'est-ce qu'il y prend là? On se le demande. L'infortuné Brugno en a fait des frais pour le compte, et à ce moment précis, il explose littéralement face à son vis-à-vis Ice.
Mm-hmm.
Il ne tient pas à la mêlée. Il ne la tient pas. Et cette mêlée s'effondre trois fois, et très logiquement, l'arbitre accorde un essai de pénalité. C'est tout à fait logique. La mêlée s'effondre trois fois du côté français, il accorde un essai de pénalité. À partir de là, tout change. Tout change. Et au lieu de continuer à produire du jeu, on veut jouer devant, mais on n'en a plus les moyens. Moralité, on doute, on commet des fautes, on rend un nombre incalculable de ballons, on recule sur l'impact, on subit même en défense, qui reste une arme colossale, même en défense, on recule. Alors qu'en première période, on défonçait en avançant. Alors, où se trouve le ou les problèmes? Alors, un, le coaching. Le coaching a été très maladroit. Visiblement, c'est pas le point fort de Lièvremont. Là, il va falloir qu'il fasse de gros progrès. Hein. Deux, nos bleus se sont vus trop beaux, compte tenu de la première mi-temps. Cette première mi-temps de rêve, ils se sont vus trop beaux. Quoi. Le match était plié pour eux. Trois, certains joueurs n'ont pas encore le niveau international. Alors je m'explique. Même si dans leur club, des gens comme Brugno réalisent des prouesses, eh bien il n'a pas encore le niveau international, c'est clair. Et on l'a vu, il a littéralement explosé. Quoi.
Donc ça veut dire que physiquement, il y en a qui
n'ont
pas tenu le match. Quoi.
Je le dis d'ailleurs. Mm-hmm. Et enfin, quatre, nos avants ne tiennent pas 80 minutes.
Ah, oui.
Et c'est ce dernier point qui m'inquiète, moi. Car devant, face aux Anglais, et surtout face aux Gallois, il faut s'attendre à des fins de match d'enfer, Et là, si on n'a pas les 80 minutes dans les jambes, on va se faire plier et même bien replier, quoi. Mmh. Alors, sommes-nous condamnés à retrouver Mr. Hyde après que Dr. Jekyll ait fait son œuvre ? Il reste du chemin à parcourir pour que nos bleusailles se retrouvent au même niveau que mon fameux axe 44, l'épine dorsale, auquel je tiens tant. En effet, cet axe composé de Aimant, Skrela, Elissald, Bonner, Zarzewski, cet axe, heureusement qu'il était là hier.
Ouais. Alors Vincent Clerc a été l'homme du match contre l'Écosse avec 2 essais, hier 3 essais.
Ouais, non mais c'est le, ouais, le prodige Clerc actuellement avec Aimant, il pourrait jouer les yeux fermés, il se trouverait. Et puis alors, quel premier essai, oh oui, ce bien. Petit coup de pied d'Elissald par-dessus la mêlée, mais c'est un coup de pied génial, quoi. Mmh. On ne peut pas faire mieux, quoi. Mmh. Et l'anticipation de... Bon, ils jouent tous les trois dans le même club, hein, Aimant, Clerc et Elissald, ils se connaissent par cœur, et ils savaient très bien qu'à ce moment-là, Clerc allait anticiper. Mmh. Et il savait exactement où il allait trouver le ballon, et puis il ne s'est pas trompé.
Bien sûr. Et puis aussi l'accélération des manches, hein,
oh bah c'est fabuleux. C'est l'homme du match.
Ouais, peut-être encore plus, effectivement.
Ah ouais, si on doit élire l'homme du match, enfin, si j'avais dû élire participer à l'élection, j'aurais mis Aimant, parce que c'est lui qui déclenche tout. Hein. Mmh. C'est lui qui déclenche tout, comme au premier match, du reste.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, alors justement, ce premier match contre l'Écosse, hein, l'équipe de France n'a pas été inquiétée, elle a fait le jeu, le spectacle, on a senti beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'enthousiasme.
Voilà, mais c'est ce mix ouais, qui est intéressant. Bon, à condition que, comme je disais tout à l'heure, la bleusaille arrive au niveau de l'encadrement, quoi. Que ce soit Zarzewski, Mas, Bonner, Nalé, Aimant évidemment, Rougerie, Clerc derrière, Skrela. Mmh. Hein, parce qu'on a vu encore que lorsque son remplaçant est rentré, ça capotait.
Ah oui, Sandberg,
il a pas encore le niveau, le brave Morgan. Mais ça viendra. Mais pour le moment, il est quand même un peu fébrile. Il a que 19 ans. Hein, il a quand même tout l'avenir devant lui. Alors qu'en club, il est extraordinaire.
Ouais, ouais.
Moi, je l'ai vu jouer en club, il est extraordinaire. Mais là, il a pas encore le niveau international. Et ça va venir. Mais pour le moment, il l'a pas.
Alors, donc, le Pays de Galles, qui a gagné devant l'Écosse 30 à 15, apparaît comme
équipe... Ça dure
apparaît comme équipe forte, hein, de ce tournoi, donc 2008. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir un final Pays de Galles-France pour la victoire finale dans le tournoi.
Et peut-être le Grand Chelem.
Oui, pourquoi pas, ouais.
Et peut-être le Grand Chelem, parce que le Pays de Galles qui a battu l'Angleterre lors du premier match, le dernier match, et on le joue à... Là-bas.
À Cardiff, là-bas,
joue là-bas, donc là, il va falloir s'accrocher, et avoir les 80 minutes, surtout, les patins, parce que les Gallois, on l'a bien vu contre l'Angleterre, les 10 dernières minutes, ils sont redoutables. Hein. Mmh. Donc si on appelle ces 80 minutes, eh ben, on peut aller se rhabiller.
Oui, effectivement, l'Écosse était l'équipe la plus faible. Aujourd'hui, il y a l'Angleterre qui va jouer en Italie pour la réhabilitation.
Oui, pour la réhabilitation, mais attention quand même à ces Italiens qui sont désormais entraînés par Nick Mallet. Et Nick Mallet, c'est pas le premier venu. Hein. Il connaît bien le rugby de l'hémisphère nord, parce que bon, il a entraîné le Stade français, il a joué pendant des années à la CBB, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la mentalité de l'hémisphère nord, et qui connaît bien les faiblesses et les forces du PAC. C'est un homme de PAC. C'est quelqu'un qui a transformé un petit peu, on l'a vu, le 15 italien de Pierre Berbizier, hein, puisque Pierre Berbizier avait surtout travaillé sur les enchaînements, alors que lui, il a travaillé les fondamentaux. On l'a vu lors du premier match contre l'Irlande, hein, c'est passé près, hein, le coup. Hein, c'est passé près. Hein.
Bien sûr. Et puis donc, on l'a dit, maintenant, dans 15 jours, c'est France-Angleterre, ça sera en nocturne, l'équipe de France donc va avoir 15 jours pour essayer de tenir les 80 minutes.
J'espère qu'ils vont les tenir, les 80 minutes, parce que contre l'Angleterre aussi, ça va être dur.
Ah ouais.
Et surtout que les British, ils ne viennent pas pour perdre.
Bien sûr.
Jamais.
Et puis pour nous, il y a une revanche d'une demi-finale de Coupe du Monde.
Et en plus.
Monsieur Duval d'Estaing, vous avez suivi le match. Vous aimez le rugby ?
Moi, j'aime bien le rugby, mais je suis un béotien. Hein. Par contre, ce que je remarque, c'est que quel que soit le sport, que ce soit le rugby ou la pelote basque, ce qui compte, c'est la passion.
Mm-hmm. Absolument. Mais je crois que c'est intimement lié. Hein. Rugby, pelote basque, golf... tout ça, c'est des sports très 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 qui se ressemblent pas, hein, pas du tout, mais on retrouve
même état d'esprit, quoi.
Oui, ça. Voilà, même état d'esprit, même fair play.
N'oubliez pas qu'au pied des Pyrénées, il y a aussi Tarbes et le sabre.
Ah, oui, oui, absolument, avec les frères Touya. Les frères Touya qui sont originaires de là-bas.
Et puis Lopez, enfin, toute des générations, finalement, de sabreurs très talentueux.
C'est vrai. Mais je vous entendais dire tout à l'heure que l'escrime, dans ma voiture en venant, que l'escrime est un sport ô combien fair-play. Mais ne croyez-vous pas que ces trois sports sont également des sports très fair-play?
Pour moi, je ne connais pas le golf, mais je pense que le rugby, la pelote basque, également, finalement, le tennis, ce sont des sports de combat.
Oui, absolument. Mm-hmm. Et comme tout sport de combat, on est beaucoup plus fair-play que sur des sports dits de démonstration.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà.
Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Michel. Merci Monsieur Duval d'Estaing. Donc, bon week-end du monde de sabre sur Dourdan. Et puis, à la semaine prochaine. Hein, on sera avec vous au téléphone puisque nous, on sera sur Bullion. Voilà.
Merci. À la semaine prochaine.
Allez, on continue maintenant avec Tribune Foot. Tiens, c'est Pierre Cangioni qu'on va avoir. Et puis, Hippolyte Dangbeto pour faire un petit bilan de la CAN. On se retrouve dans quelques secondes.